Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 49e épisode, épisode numéro 48. Nous sommes le 16 juin 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Aurélien Hébert. Bonjour Aurélien Hébert, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Aurélien et je travaille à Clevercloud en tant que développeur. Je fais notamment un peu de développement autour de Scala depuis que je suis arrivé.
Merci beaucoup. Je suis également accompagné de Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous ?
Eh bien, bonjour, je suis aussi développeur chez Clevercloud, je fais principalement du Rust.
Et voilà, et de la sécurité un petit peu quand même. Et tu regardes des graphes en ce moment ?
Oui, effectivement. En fait, non, en ce moment, je fais du WarpScript. J'écris des graphes dans Warp10 parce que c'est hyper, hyper intéressant de faire du Warp10.
Et nous avons aujourd'hui un invité de marque, Brendan Abolivier. Bonjour Brendan Abolivier, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie ? Ce que je n'ai pas demandé aux autres, mais ils l'ont dit quand même.
Bonjour, je m'appelle Brendan Abolivier, je suis développeur sur Matrix et donc employé, ingénieur chez Element, qui est la boîte qui embauche la plupart de la core team Matrix. On en reparlera probablement un petit peu plus tard.
Je pense qu'on va reparler un petit peu de Matrix. Mais je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Et justement, avant de parler de Matrix, je vous propose qu'on parle un peu de son grand-père. On pourrait dire ça comme ça. D'un aïeul.
C'est le grand-père un peu creepy qui fait des commentaires racistes en repas de famille.
Celui-là, et dont on se demande parfois s'il est encore vivant, justement, c'est la question. Parlons donc du suicide de Freenode. Il me semble que, Brendan, toi qui bosses dans ce milieu-là, t'as pas mal suivi le sujet.
Ouais, j'ai un peu suivi ça. Bah pour rappel des faits, on va dire, du coup, il y a quelques semaines, l'équipe de Freenode, le staff de Freenode a décidé de prendre son indépendance, on va dire ça, de quitter la maison mère suite à certaines actions, certaines décisions du management suivant une acquisition quelques mois, quelques années plus tôt, je ne me rappelle plus. Et du coup, ces staffers ont créé un nouveau réseau sous le nom de LiberaChat. Suite à quoi, une semaine plus tard, Freenode a publié un blog post, une lettre ouverte en disant nous avons toujours plus d'utilisateurs que Libera, la tentative de tuer Freenode a échoué. On peut le voir notamment, je pense, sur le dernier lien. Alors bon, j'ai l'impression que le bot qui permettait de récupérer ces informations a décédé juste avant qu'on lance l'enregistrement, mais on pouvait voir que du coup Libera prenait rapidement de la vitesse là-dessus, puis il y a eu quelques semaines qu'on suivit ça, il y a eu quelques mises à jour du côté de Freenode. Il y a eu un mouvement qui a été très très critiqué de Freenode qui passait sur tous les du nouveau staff de Freenode, du coup, qui passait sur tous les channels, qui disait on a bougé chez Libera, et ce que faisait Freenode, c'est qu'il faisait un takeover de tous ces channels là sous prétexte que c'était de la publicité déguisée qui n'était pas autorisée par les terms of service, et du coup ça fait que beaucoup de migrations, on va dire, chez de Freenode à Libera qui auraient dû être très 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 smooth, très bien pour les utilisateurs, se sont retrouvés un petit peu plus bumpy. Et il y a encore moins longtemps, Freenode, donc la semaine dernière, Freenode a annoncé qu'ils allaient changer toute leur stack technique. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que Freenode, jusqu'à maintenant, ça tournait sur une stack qui commençait à être un petit peu obsolète, qui était très vieille, qui n'avait pas été révisée depuis peut-être le début. Et du coup, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'ils refassent une petite un petit ménage de printemps, on va dire ça comme ça. Mais l'effet secondaire de cette décision, c'est que ils ont complètement changé la stack technique au niveau des services. Donc sur IRC, le service, c'est ce qui te permet d'enregistrer tes channels, d'enregistrer ton nom d'utilisateur, d'enregistrer tes préférences en règle générale.
Le fameux nick serve,
C'est
c'est
ça,
ça?
le
Le
nick
slash
serve,
nick
le
serve.
chan serve, en gros, tout ce qui se termine par serve, généralement, sur IRC, ça fait partie des services. Et du coup, comme ils ont changé la stack technique des services, en tout cas, je suppose, du coup, qui avant était ANOP, qui est le projet que la plupart des réseaux IRC utilisent, et je ne sais pas exactement sur quoi ils sont passés. Mais du coup, vu qu'ils ont changé de stack, ils ont laissé à l'abandon leur base de données qui, avec plus de 20 ans d'enregistrement. Donc ça veut dire que tous les channels qui étaient enregistrés sur Freenode, tous les noms d'utilisateurs qui étaient enregistrés sur Freenode, tout ce qui était enregistré via les services, ça a complètement disparu.
Ah ouais.
Je suis même allé vérifier ça il y a quelques jours en me connectant sur Freenode. Ça faisait un petit peu bizarre de se connecter sur Freenode avec mon nom d'utilisateur principal et de voir que NixServe me râlait pas dessus pour que je m'identifie, qu'il
Ouais, t'es plus
utilise mon... Ah oui,
registre
c'est
de.
ça.
Ah, il faut que tout le monde réenregistre
Exactement.
chez
Voilà, donc
Freenode. Ah
tous
ouais.
les nicknames que tu pouvais pas avoir, tu peux les avoir maintenant. De toute façon, plus personne n'en veut.
C'est ça. En fait, ils sont repartis complètement de zéro. Et ce qui est un petit peu bizarre, t'aurais imaginé qu'ils prévoient genre une phase de migration ou un truc comme ça pour garder toutes ces données. Apparemment, ils l'ont pas fait. Alors
Ouais,
après, est-ce que c'est en réaction justement au gap entre Freenode et Libera qui se resserre en mode on veut pas avoir ce moment où Libera nous dépasse naturellement, ou est-ce que c'est une autre raison? Ça, je suis pas en mesure de pouvoir le dire, mais
la vraie question, c'est ils vont faire quoi de Freenode en fait? Parce que,
eh ben
bah,
ça.
ok, il y a eu un mouvement, puis ils sont arrangés pour juste takeover les channels, donc les gens ont encore moins envie d'y aller. Puis là, ils kickent tout le monde, en fait. Genre, ils ont kick IRC Cloud, qui était une des méthodes principales d'accès à IRC pour les gens qui n'ont pas la ligne de commande ou un client local. C'est un réseau de chat. Ils sont en train de s'assurer que plus personne n'y aille. Qu'est-ce qu'ils veulent faire des IRC? Ils veulent faire des botnets ou...
Ça, j'en sais
Mais
rien.
ça, qu'est-ce qui les motive derrière à repartir de zéro?
Ça,
C'est quand
c'est
même surprenant comme choix.
ouais, ça, c'est une... Ça, c'est une excellente question. Ouais. Après, ouais, enfin, ouais, je pense que ouais, le K-Line, donc le ban d'IRC Cloud, c'est vraiment une décision qui est bizarre. Après, je pense qu'il y a eu, y a eu une énorme, y a eu une énorme vague de spam sur Freenode dans les dernières semaines. On en a été un peu victime avec Matrix, parce que du coup il y a beaucoup de salons de Freenode qui sont bridgés sur Matrix et qui du coup à ce moment-là étaient encore bridgés sur Freenode et du coup on a avec des utilisateurs enfin des bots hein, qui se ramenaient dans les channels IRC et qui allaient spammer des messages antisémites en
Ah oui.
signant Libera, ce qui évidemment était totalement faux. Mais ça, je me dis que peut-être que s'ils ont identifié que... Après là, c'est que de la conjecture, c'est que de la supposition.
Ouais,
C'est
du
peut-être que...
spam
Ouais, c'est ça.
sur Freenode, il y en a toujours eu.
Oui,
Toujours du
après
spam.
là, c'est une vague. Enfin,
Et
pour
des trucs
avoir...
encore pires, hein.
Oui, ah non, mais ça, oui, clairement. Mais après, pour avoir... vu quelques vagues de spam passer sur Freenode via nos
Les
nos
bridges, ouais.
salons le salon bridgé, celle-là était quand même particulièrement
Violente.
enfin était pas forcément la plus violente, mais une des plus actives, on va dire.
Surtout si
Donc
en plus
peut-être que
ça...
le nouveau staff s'est juste dit on va éliminer des solutions qui permettraient d'automatiser des trucs, enfin d'automatiser l'IRC, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une solution en tout cas un peu radicale, on va dire, de K-Line IRC Cloud.
Ouais, je pense qu'on verra où ça va. En tout cas, pour le moment, c'est pas drôle parce que ça casse un peu l'intérêt de Is Freenode Dead Yet?
Oui.
Bah ouais.
qui avant nous permettait d'avoir un peu de suspense, etc. Et là, vu que la courbe Freenode vient de tomber, vu qu'il n'y a plus aucune donnée qui est récupérée, vu que de toute façon, il n'y a plus personne dessus, donc enfin, plus personne. En
Faut se
tout cas, plus
réinscrire.
personne d'enregistré ou de. Voilà. Ça casse un peu le suspense. C'est dommage. Enfin, peut-être que c'était le but aussi.
Peut-être.
Je vous propose
Parce qu'il y a un
que.
truc que
Ouais.
j'aime bien par contre, petit taquet sur la page IsFreeNodeDeadYet, c'est que sur le nombre d'utilisateurs, tu vois chat.freenode.net qui est en train de descendre, ok. T'as Libera qui est en train de monter, et t'as OFTC qui reste plat. Genre, juste pour dire, non, non, il n'y a personne qui vient chez vous.
Non, je
Wow,
pense
ils ont
qu'ils
quand
ont
même
fait.
20 000 users, hein.
Ouais, je pense en vrai, je pense qu'ils faisaient ça plus pour avoir une baseline pour comparaison de à quoi ressemble un réseau IRC, un minimum populaire
Oui,
normal
bah
entre
c'est très
guillemets, quoi.
actif en hein, OFTC. Hein.
Oui.
Je trouvais juste la comparaison
Mais
là-dedans,
oui,
genre, là, c'est
oui.
flat.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment la baston, tu sais, avec le petit lapin qui passe à côté là derrière.
Ouais,
Enfin,
bah
c'est
ça.
le...
Ça me rappelle, alors là je fais complètement du hors-sujet, mais ça me rappelle l'histoire des
Vas-y.
Lopez il y a quelques années avec le troisième Lopez qui avait rien à voir et qui essaye de se ramener dans la baston.
C'est complètement ça. Ouais, ça, je pense aussi au fameux ours qui fait du moonwalk là.
Vrai.
Je sais pas si vous voyez la vidéo où il faut suivre un ballon des yeux
Ah
et que pendant que tu suis le ballon
oui.
des yeux, t'as un ours qui fait du moonwalk et que t'as pas vu
Tu regardais le ballon.
parce que tu regardais le ballon. Il y a ce petit côté, genre, moi je vis ma vie.
Ouais, c'est
Ou.
ça. Mais c'est marrant parce qu'il gagne. Ah, ouais. On s'attendrait que comme il y a les deux qui. Ouais.
Bah en fait, c'est des gens qui migraient le réseau de leur projet, leur truc, vers Libera, qui est le truc qui prenait
L'ampleur.
Oui, c'est ça.
du momentum à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est. Mais bon.
Je vous invite à quitter, enfin, je vous invite en termes de sujet, hein, à quitter IRC pour plonger dans le futur, si j'ose dire, avec Matrix. Et notamment, on a un lien qui va nous permettre d'introduire un peu Matrix pour nos éditeurs et nos auditrices, qui explique à quel point la messagerie chiffrée avec Matrix est pas mal utilisée par les gouvernements et tout ce qui est espionnage.
Ouais, du coup, ouais, j'ai proposé le sien. Donc déjà, d'une part, parce que c'est plutôt cool de voir un projet sur lequel tu bosses, qui a son article dans Wired, forcément.
C'est classe.
Mais ouais, aussi. Donc ouais, ça fait une petite. Il est assez court, du coup, ça fait une introduction à Matrix assez sympathique. Donc Matrix, pour les gens qui ne connaissent absolument pas, c'est une c'est un protocole ouvert de communication décentralisé, fédéré, chiffré, enfin chiffré de bout en bout, qui est principalement utilisé aujourd'hui pour du chat, mais qui pourrait être, enfin concrètement, c'est juste du JSON synchronisé entre plusieurs serveurs. Et un des cas d'utilisation qu'on voit pas mal. C'est au niveau des gouvernements, alors pas que, aussi gouvernements, universités, grosses entreprises qui ont des structures assez similaires, dans le sens où ce qui est intéressant pour ce genre de structure, c'est d'avoir une plateforme interne, donc sur laquelle ils ont une souveraineté au niveau des données, au niveau du trafic. Qui permet, enfin qui est décentralisé et fédéré, ce qui veut dire que n'importe quel ministère ou n'importe quel département de l'université ou quoi que ce soit peut avoir son propre serveur qui est configuré de la façon qu'ils veulent, qui a les règles qu'ils veulent, les systèmes d'authentification qu'ils veulent, mais sans pour autant perdre la capacité de discuter avec l'ensemble de l'organisation. Et du coup, un des exemples qui est donné ici, c'est le gouvernement français. Donc, on bosse avec eux depuis 2017-2018.
Oui, quand même.
Je me souviens plus exactement de quand l'info est tombée. Je crois que c'est mi-2018. Donc, avec eux, on développe une plateforme qui s'appelle CHAP, donc qui est Qui dont le but est à terme d'être la messagerie instantanée de l'administration française. Donc ce qui est plutôt sympa parce que l'administration française, c'est, je crois, 5 ou 6 millions de fonctionnaires. Et du coup, on a, pour l'instant, on est à l'étape de POC. Il y a un appel à projet qui a été lancé, qui est actuellement en cours d'étude pour arriver sur une structure un petit peu plus long terme. Et on voit vraiment que on a ces ministères qui ont chacun leur serveur matrix, moi pour m'authentifier, pour vérifier la validité de mes utilisateurs ou je sais pas quoi d'autre, qui veulent avoir ces règles là, d'autres qui veulent avoir ces règles là, mais à côté il y a toujours les utilisateurs sur ces serveurs qui peuvent quand même causer avec tout le monde de façon sécurisée aussi, parce que du coup le chiffrement de bout en bout qui est semi-optionnel, on va dire, dans Matrix en règle générale, et activé par défaut sur Chap. Donc ouais, non, c'est un projet assez cool, et on a vu d'autres projets du même style qui sont lancés dans les 2-3 dernières années. Il y a le gouvernement allemand qui a annoncé qu'il déployait Matrix pour toute l'armée, à l'échelle de l'armée allemande, et ainsi qu'à l'échelle de deux Länder, donc des régions, on va dire, ouais, ça, allemandes, c'est un État fédéral, ce qui est assez intéressant, parce que je crois que ce deal-là avec ces deux Länder, c'est le plus gros deal public dans le milieu des communications, en termes de nombre d'utilisateurs. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était quelque chose d'assez énorme. Mais on a aussi, enfin, mais Matrix n'est pas utilisé forcément que par des gouvernements, c'est aussi utilisé par des entreprises à peu près toutes les tailles, des universités, comme on le disait. On a quelques case studies sur des universités un peu partout dans le monde qui utilisent Matrix. Et d'ailleurs, il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps dans les universités allemandes qui disait que Matrix était la solution, l'une ou la solution, je ne sais plus, la plus utilisée pour dans les universités allemandes, et aussi la solution.
Ouais. Ça a pris.
Ouais, voilà.
En termes de solution, ça a pris un énorme. Ça a fait un énorme bond. Hein. Ça a très, ouais, très bien pris Matrix.
Une énorme ampleur, ouais. Et puis même juste en regardant un petit peu plus. En regardant un petit peu moins large, juste à l'échelle de la communauté open source, on a Mozilla qui utilise Matrix, on a KDE qui utilise Matrix, on a plein de projets qui utilisent Matrix, que ce soit pour leur communauté. Donc Mozilla, par exemple, ils ont annoncé l'année dernière, je crois, qu'ils fermaient leur IRC communautaire et qu'ils le remplaçaient par Matrix. Il y a d'autres organisations open source qui utilisent ça en interne. Je crois que XWiki, donc qui sont aussi ceux qui font CryptPad, utilise Matrix en interne. Je crois qu'ils l'utilisent aussi en externe pour l'aspect communautaire. Mais ouais, non, c'est un truc vraiment vraiment intéressant, et de voir tous les projets qui utilisent Matrix aux quatre coins du monde, que ce soit pour du chat ou pour autre. D'ailleurs, il y a un projet qui s'appelle Raiden Network, je crois, qui fait de la, alors je sais plus exactement ce qu'ils font, mais c'est ça se base sur la blockchain Ethereum, et ils utilisent Matrix, je crois que c'est plus pour du stockage ou de la communication entre services ou des trucs comme ça. Mais du coup, pour une utilisation qui est pas vraiment de la messagerie instantanée. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce genre d'usage se développer.
Ouais, on réfléchit à utiliser ça aussi chez Clever Cloud pour Une raison très très simple, c'est qu'on utilise Slack comme énormément d'entreprises actuellement. Et Slack a été racheté par Salesforce, qui a racheté il y a 7-8 ans une petite entreprise qui s'appelle Heroku. Et le fait que notre moyen de communication quasiment principal quand même appartienne à un de nos concurrents, ça nous pose question.
Bon, après, voilà. Salesforce, ils n'ont pas l'air hyper, hyper focus sur Heroku. Non. Le truc a quand même pas mal végété.
Il y a pas mal de... Je crois que suite au rachat d'Heroku, il y a aussi pas mal de staff senior qui s'est barré. Je sais que même nous, à Element, on a fait une ou deux embauches de staff senior ex-Heroku et on en a eu pas mal dans le pipeline d'embauche à une époque.
Il me semble que même les fondateurs, il n'y en a plus beaucoup hein, chez Heroku. Ils ont vendu le truc, ils sont partis faire autre chose.
Rachat, généralement, les premiers à partir, c'est souvent les fondateurs.
Parce que Salesforce, c'est quand même spécialisé dans tout ce qui est
CRM. Généralement, ce n'est pas les fondateurs qui sont les premiers à partir. Notamment les dirigeants, tu leur mets une clause. Alors, tu vas rester 2-3 ans. Voilà. Et là, après, tu te tires avec ton argent. Mais les senior staff, les gens qui sont là depuis longtemps, souvent ils se barrent très très vite en fait.
Ouais, je peux imaginer. Ouais.
Parce que voilà, bon, ils ont donné quoi.
Bah, c'est aussi l'intérêt de se faire acheter par un grand groupe comme ça, c'est que derrière, t'as sécurisé un peu le futur du produit et toi tu peux remonter autre chose à côté.
Ouais, oui, même et puis, si le produit s'en coûte un peu.
Ouais, et puis aussi, toi en termes de carrière, tu peux aussi monter dans une grosse boîte. Je sais que. Il y a un pote qui était CTO ou Head of Engineering d'une startup à Londres qui se sont fait racheter par une plus grosse boîte. Et du coup, maintenant, il est Head of Engineering de cette grosse boîte. Et du coup, forcément, c'est une évolution assez, assez intéressante en termes de carrière.
Je vous propose qu'on avance un petit peu parce que on s'était dit qu'on tenterait de tenir une heure.
C'est bien parti.
Voilà. Mais tout en restant dans Matrix, vous lancez les Spaces. Ça a l'air d'être des groupes, mais pas vraiment, mais quand même si.
Ouais. Alors du coup, donc les Spaces. Donc en gros, il y a quelques années, on avait une fonctionnalité qui s'appelait les groupes ou les communautés dans Matrix, qui était un truc qui avait été fait un petit peu à l'arrache à un moment où Matrix avait été dans une situation assez difficile en termes de funding, donc shipper cette fonctionnalité c'était une nécessité pour assurer la survie du projet. Mais du coup, c'était une fonctionnalité qui était complètement bâclée, qui fonctionnait pas très bien, qui avait des bugs de partout. Et du coup, ça faisait un petit moment que on voulait repenser cette fonctionnalité d'une meilleure façon. Donc on a réussi à le faire. Donc ça faisait un petit moment qu'on parlait de le faire. On avait fait un talk là-dessus au FOSDEM 2021. Et du coup, cette fonctionnalité qui s'appelle Spaces, donc le principe, du coup, c'est grosso modo cette fonctionnalité-là, mais en plus fonctionnelle, plus stable. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore. On vient de lancer la bêta, donc forcément, il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités de la feature précédente, mais du coup, qui sera plus stable parce qu'elle sous le capot, en fait, ça. C'est une fonctionnalité qui va utiliser des primitives déjà existantes dans Matrix. Donc dans Matrix, donc comme je le disais, c'est juste des bouts de Matrix en soi à la base, c'est juste des bouts de JSON synchronisés entre quelques serveurs. Et généralement, ces bouts de JSON sont synchronisés dans ce qu'on appelle des rooms. Et donc du coup, c'est dans un cas de communication, de messagerie instantanée. Ta room, ça va être ton salon de discussion, et puis chaque bout de JSON, ça va être un message. Chaque événement JSON, ça va être un message ou une action ou quoi que ce soit d'autre. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on a déjà une une structure dans Matrix, une primitive dans Matrix pour faire de la donnée décentralisée qui est bien, qui est robuste, etc. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le concept de room, on a rajouté du typage dessus. Et en fait, un space, ça va être juste une room qui va être typée et affichée un peu différemment. Et ce qui va permettre beaucoup plus de stabilité au niveau, de reliability, j'ai oublié le mot français, au niveau de comment ton space s'organise dans un contexte décentralisé. Parce que du coup, on utilise des trucs qui fonctionnent déjà. Donc un space, en gros, qu'est-ce que c'est? Conceptuellement, c'est juste un groupe de rooms et d'utilisateurs. Donc c'est, par exemple, si on prend l'exemple de Discord, par exemple, vous avez les serveurs ou les guildes de Discord qui vont contenir des channels, qui vont contenir des utilisateurs que tu invites dans ton serveur Discord, etc. Un space, c'est à peu près la même chose. Okay. Où tu vas avoir des rooms qui vont être organisés dans ton space avec possiblement une notion de hiérarchie aussi. Tu vas avoir des utilisateurs qui vont être invités dans ton space et à terme, alors c'est en cours d'implémentation, ça je crois, pouvoir penser des trucs du style tous les utilisateurs de ce space peuvent accéder à tel room, avoir en gros des ACL au niveau des accès au room en fonction des spaces, avoir des settings potentiellement dans le futur de notification par rapport au space. Par exemple, j'ai mon space boulot, j'ai mon space perso, je veux pas être notifié pour dans le space boulot en dehors de mes heures de travail, ce genre de truc. Et ouais, du coup, en gros, c'est à peu près ça. C'est au niveau UX, c'est assez inspiré des serveurs Discord ou des workspace Slack, ce genre de concept. Mais ça va aussi du coup forcément en dehors du cadre de la messagerie instantanée. Il y a pas longtemps, on a vu un projet, et ça c'est d'ailleurs le lien suivant, qui est quelqu'un dans la communauté qui a vu le concept de space et qui a dit tiens, je vais pouvoir utiliser ça pour faire un blog et faire un blog dont l'intégralité du backend c'est Matrix, c'est-à-dire que t'as juste un frontend avec du JavaScript qui va taper sur Matrix pour récupérer le contenu et du coup la façon dont il l'a fait, c'est qu'il a créé un space pour son blog et il a créé une room pour chaque post dans lequel du coup il y a le contenu. Je pense qu'il y a peut-être des commentaires également.
Ouais, dans son article, il explique qu'il envoie des messages. Alors déjà, il réexplique quand même que Matrix, finalement, c'est un genre de base de données événementielle distribuée.
C'est ça.
Qui est basé essentiellement sur du JSON. Et que, voilà, donc il regarde qu'est-ce qu'on peut mettre dans un message. Donc tu peux mettre un titre dans un message, de l'info, etc. Tu as des dates. Et ouais, c'est assez marrant parce que, du coup, chaque article est une room. Avec certains messages, on peut modifier des messages apparemment. Enfin. Ouais. On peut envoyer des événements de modification de messages, et donc lui, il a fait tout un truc qui permet de récupérer la dernière version, entre guillemets, d'un message qui a un certain tag, etc. Et ensuite, on peut se pointer pour commenter, en fait, commenter son article. On peut juste se pointer dans la room qui correspond à l'article sur son serveur Matrix. Ouais.
Et je pense qu'un truc qui pourrait être l'étape suivante, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans la communauté qui a créé un truc. Alors, je crois que ça s'appelle Cactus Comment. Et en gros, c'est un système de commentaires un petit peu à la Discus que du coup tu vas juste drop sur ton blog, qui utilise Matrix et du coup qui va créer une room Matrix pour chaque article et du coup tu vas pouvoir renseigner, tu vas pouvoir envoyer un message dans cette room et ça va s'afficher en en commentaire. Et ouais, non, ça, c'est un projet assez intéressant. C'est assez cool de voir du coup des projets perso qui, enfin des projets pas perso mais des projets externes qui viennent pas de Matrix, qui viennent pas d'éléments, qui sont du coup pas en rapport, enfin pas sur une utilisation messagerie instantanée.
Après, c'est un peu le destin de toutes les plateformes de chat de servir d'infra à d'autres choses. Hein,
oui, c'est ça.
Le grand truc avec IRC, c'est au début il y a eu des bots, puis ça s'est fait genre les channels où tu te connectais sur un channel et tu fais une commande et puis t'as quelqu'un qui t'envoie le dernier ouais. manga à lire et des gens qui faisaient tourner des botnets entiers en fait où t'as tous les bots qui se connectaient dessus, puis ils tapent une commande et puis pouf, t'as toutes les machines qui font un truc. Et on a ça dans Slack, on a ça dans Discord, on a ça, enfin toutes les plateformes ouais. finissent par, enfin une fois que t'as un moyen de balancer des messages à plein de choses en même temps, que de les stocker, etc., bah, t'as de quoi construire par-dessus, en fait.
Exactement, ouais. Et puis surtout, la nature de Matrix qui est vraiment, t'envoie un bloc de JSON qui peut avoir n'importe quelle structure et ça va juste être stocké et répliqué, bah, du coup, ça s'applique particulièrement bien pour ce genre de trucs.
Ouais, ça permet de construire une plateforme modulaire après, par la suite, où les gens peuvent implémenter leurs propres besoins, quoi.
C'est ça.
On va faire la base de données Matrix, en fait. On va faire nos sites.
Ah, mais il y a déjà des gens dans la communauté qui ont, alors c'est plus en mode POC pour déconner, mais qu'on crée des layers des couches de base de données qui utilisent Matrix pour, en tant que stockage.
Distribué. En même temps, le côté décentralisé, ça permet d'avoir plusieurs stockages différents.
Ah, bah, t'as de la réplication gratuite.
C'est ça, c'est ça. Sur
c'est intéressant.
Tu peux aller mettre ta donnée chez les autres. Je vous invite à passer à la suite parce qu'on est officiellement à la moitié du temps qu'on s'est dit qu'on tiendrait. petite news hein, encore un peu sociale politique, on va dire. Huawei met 8 millions dans Quant.
Waouh.
Voilà, je suis allé un peu regarder. Alors, donc ils ont acheté 8 millions de obligations convertibles. Alors, j'ai dû aller taper obligations convertibles dans Quant pour savoir à quoi ça correspondait parce que je suis pas le meilleur dans trop ce sujet-là. Mais en gros, une obligation, c'est une reconnaissance de dette. Pour faire simple, de ce que j'ai compris. Une obligation convertible, c'est une reconnaissance de dette que tu peux convertir. Excusez-moi. Pardon. Quelle idée d'être d'astreinte pendant qu'on fait un podcast. Une obligation convertible, c'est une reconnaissance de dette qu'on peut convertir en part de la boîte. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de conditions pour réussir à faire en sorte que ça arrive. Mais voilà, donc bon, il y a plusieurs implications. Je pense que l'article là qu'on a mis est très très positif et je pense que je les rejoins quand même un peu là-dessus. Que Quant puisse continuer d'exister parce que ils sont pas forcément au top top de leur forme encore en termes de financiers. Et Huawei, bon, c'est pas un acteur américain, donc ça change un petit peu des Américains qui mettent des sous dans les techs françaises et qui partent avec. Voilà, je sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Huawei, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent, ils vont utiliser Quant sur leur smartphone. Faut noter qu'effectivement, un smartphone, faut bien que ça ait un moyen de rechercher de l'info facilement et qu'ils pouvaient pas ship avec du Google avec dessus.
Google, bah ouais, forcément.
Donc, c'est pas forcément étonnant qu'ils aillent sur ce deal-là. Après, bon, est-ce qu'on ramène encore le gros sujet de la souveraineté et de, tiens, on a un acteur qui n'est pas français ou européen qui investit dans Quant, qui était le fleuron de la tech française? Bon, le sujet est là, on le pose là.
Voilà. Après, c'est sûr que c'est une bonne chose pour Quant de pouvoir continuer à... Bah, là, c'est une grosse arrivée de fonds qui arrive, donc ça va permettre de, bah, d'avancer plus solidement.
Ouais. Bah... Oui, et puis de ce que dit l'article, ils font moins de pertes maintenant. Ce serait bien qu'à un moment, ils fassent du cash, mais bon.
Et c'est encore la question de comment est-ce que tu monétises un outil de recherche gratuit, quoi. Enfin, gratuit. Pour le moment, gratuit.
Ben, moi, ça... Enfin, sur Google avec la pub. Enfin, ça me rappelle un article. C'était des gens qui lançaient un service au Mexique. Je crois. Oui, c'était Amazon. Amazon qui voulait lancer son site au Mexique. Et il s'était posé la question, bah oui, mais on dépend beaucoup des pubs Google, etc. Si on essayait de faire le launch sans les pubs Google dans le moteur de recherche. Et ils ont lancé leur site sans ces pubs-là. Et en un an, il s'est quasiment rien passé. Jusqu'au moment où ils ont dit, bon, ok, on paye des Google Ads, et puis c'est parti. Et là, tout d'un coup, ça a explosé. Parce que c'est tellement, tellement efficace et cheap d'aller mettre des pubs sur les résultats de recherche. C'est incontournable, en fait. Et peut-être qu'ils arriveront à cette solution-là, peut-être qu'ils trouveront autre chose. Mais ça reste une méthode qui est efficace, quoi.
Voilà. Au moins, c'est pas les Américains. en parlant d'Américains, non, rien à voir d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est toujours plutôt les Chinois d'ailleurs qui font de l'IPv6 en masse, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, petit point sur l'état d'IPv6. On est à 35%, c'est ça à peu près ?
Ouais, à peu près.
Mondial, ouais. Mondial. 35% d'utilisation d'après Google. Eux ils sortaient des stats sur vraiment le entièrement, et puis par pays ils ont des graphes qui sont pas hyper précis, mais il y en a un autre graphe par Akamai qui est un CDN qui gère beaucoup de très gros sites, et en fait tu vois bien que c'est différent par pays. Par exemple, le pays qui a la plus grande adoption, c'est l'Inde, où on a 59,8% des connexions en IPv6.
Impressionnant. Et en France on est dans le top 10 quand même, c'est plutôt pas mal.
Ouais.
Plutôt pas d'élèves.
On a quand même 45%.
Ouais. C'est vrai, madame.
Non, alors, oui, on a quand même. La Chine, on est à genre 23%, quoi. Parce que probablement, la Chine, il y a beaucoup de vieux Windows, de choses comme ça qui ne font pas d'IPv6. Mais.
Après, je pense aussi que la Chine, c'est plus difficile de faire monter le pourcentage, parce que forcément, il y a beaucoup plus de terminaux. De terminaux.
Ouais.
Sûrement.
Bah, c'est-à-dire que le pourcentage est, on va dire, plus élevé que ce que j'aurais imaginé. Assez décevant quand même.
C'est sûr qu'on aimerait avoir le même type de graphe qu'il y avait eu quand Let's Encrypt avait lancé, s'était lancé avec du coup les graphes d'adoption de, les graphes d'adoption d'HTTPS par les sites qui avaient.
C'est-à-dire que il y a, au final, la question c'est qui paie pourquoi. C'est-à-dire que tu changes ton certif, tu passes à du Let's Encrypt, c'est gratuit, forcément il y a eu une adoption de dingue.
Bah oui, ouais.
La IPv6, t'aimerais bien ne plus payer une IPv4 parce qu'elle coûte extrêmement cher et qu'il y en a de moins en moins. Sauf que si t'as cette adoption-là,
c'est sûr.
Tu vas être obligé. Et le truc, c'est que les fournisseurs d'accès, eux, ils s'en foutent, ils mettent tout le monde derrière des gros NAT, donc ne pas avoir beaucoup d'IPv4, finalement, c'est pas hyper, hyper grave pour eux. Enfin, ils sentent le souci quand même.
C'est ça, il n'y a pas une grosse motivation, une grosse incentive pour switcher.
Et puis basculer sur de l'IPv6, ça demande quand même des contraintes infra qui sont quand même conséquentes. Donc,
De toute façon, tu ne peux pas faire une bascule, il faut avoir les deux.
Oui, bah oui.
Donc c'est réel, quoi.
Donc ça pique un peu, quoi.
Ouais.
Mais ça progresse, donc c'est plutôt ce qu'il faut retenir. Et ça veut. Ce sera une bonne chose de basculer sur de l'IPv6 pour sortir de l'IPv4.
Mais toujours en parlant réseau, petite news un petit peu marrante. En ce moment, la mode, c'est les NFT. Et donc, l'idée, c'est de vendre tout et n'importe quoi à base de non-fungible token. C'est ça, si je ne me plante pas. Et Tim Berners-Lee... a fait donc une NFT de son code un peu legacy. Donc voilà, le code du début du web. Donc je ne sais pas, ça a été vendu ou pas encore, je n'ai pas suivi. Ou il le propose juste... Oui. Il fait une comment on appelle ça, auction.
Une enchère.
Ouais, c'est ça, merci. il fait une enchère voilà, sur le code du tout début de l'internet, du web. Voilà, donc si ça vous intéresse et que vous avez de l'argent, vous pouvez Voilà. Jusqu'à ce qu'un type avec un chapeau en cuir et un fouet vienne vous dire « Non, ce code devrait être dans un musée mmh. !» Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire en plus là-dessus.
Non, mais ça me rappelle un petit peu Jack Dorsey qui avait fait qui est du coup CEO de Twitter actuellement et cofondateur aussi de Twitter, qui avait fait la même chose avec son tout premier tweet. C'était parti pour 2,9 millions de dollars.
Ah ouais.
Ouais.
Ouch.
Quand même. Pour un tweet.
Ouais, pour le 20e tweet de toute la plateforme, apparemment.
Ah oui.
J'imagine pas pour le premier.
Enfin, je dis ça juste parce que l'ID du tweet est slash 20, mais ça veut pas. Mais je sais pas. Je suppose que ça veut dire que c'est 20.
Ouais, peut-être que. Ouais, bref. Mais bon, quand même, un des premiers tweets, quoi.
Oui, voilà.
Ça marche. Bah, si on n'a rien de plus à dire là-dedans, je vous propose qu'on avance. Est-ce qu'on fait le sujet rigolo ? Ouais, il est rigolo quand même.
Moi, je trouve ça rigolo.
Il est rigolo. C'est un lien de Geoffroy, si je dis pas de bêtises. Sur quelqu'un qui s'amuse à. Enfin, des gens qui s'amusent à tester de hacker des voitures autonomes en faisant vibrer leur caméra. C'est ça ?
C'est ça. En fait, dans les caméras, il y a des algorithmes pour repérer les micro-mouvements, les vibrations, les choses comme ça, et adapter l'image. Et l'idée, c'est de faire vibrer la caméra avec du son. Et en fait, du coup, l'algo essaie de corriger l'image. Et en corrigeant l'image, en corrigeant les défauts qui étaient créés par ces vibrations, crée une des images des ombres de choses qui, en fait, n'existaient pas. c'est quelque chose de vraiment fandard comme technique, parce que, voilà, tu fais voir quelque chose à une caméra qui n'est pas là.
D'un point de vue sécuritaire, on peut faire dévier les voitures de trajectoire.
Ouais, et apparemment, tu peux même faire disparaître quelque chose qui est là, plus ou moins. En tout cas, ne pas considérer que c'est un objet physique qui est devant toi et qu'en fait, encore la place pour avancer alors que tu n'as pas forcément la place pour avancer.
Ouais. Ouais, je sais
bon,
pas
tout ça pour dire que.
Comment ça se met en œuvre ouais. Comment ça se met en œuvre, enfin, s'il faut être proximité ou pas du véhicule ou dans le véhicule. Mais...
Mais alors, d'après les dessins, ils ont l'air d'être à l'extérieur. Hein. Ouais.
Ouais.
Et ouais, si tu es positionné au bon endroit.
Il y a probablement des limitations, c'est pas facile à faire, ça, mais finis toujours par trouver des moyens d'améliorer ce genre d'attaque. Hein.
C'est ça, de rentabiliser.
On rappellera quand même des choses où c'était il y a. C'était quoi ? C'était un laser qui envoyait. C'était utilisé un laser pour envoyer des commandes à Alexa ou un truc comme ça ? Repérer ce que le micro disait à distance et oui. Ils finissaient par faire ça depuis l'immeuble à côté. Enfin.
Ouais, je m'en souviens de ça. Ouais.
Mmh. Oui, à travers deux vitres, etc. Enfin, ouais, c'était impressionnant. Ouais. Et ouais, de la même façon, il y a eu pas mal de. Donc ouais, les voitures autonomes, c'est pas encore pour aujourd'hui. Enfin, entièrement autonome sur le trafic routier. Voilà. Et de toute façon, on n'a même pas besoin d'aller aussi loin parce qu'il y a aussi toutes les histoires de. Je ne sais pas si vous avez vu passer le camion qui transportait des feux tricolores. Mmh. Et que sur le. C'est un type qui avait filmé là, dans sa Tesla. Sur son tableau de bord, ça indique un peu les voitures autour, etc. Et ça indiquait, mais limite comme dans un jeu vidéo, des, des feux tricolores qui avançaient, etc. en permanence et qui rattrapaient. Et en fait, non, c'est juste que le camion devant avait, c'était un pick-up avec 3-4 feux tricolores temporaires là, il devait emmener ça sur un chantier ou un truc comme ça. Et la voiture était persuadée qu'il y avait des feux devant elle, quoi. Puis il y a le classique aussi du. Quand tu te balades avec un panneau stop sur l'épaule, bon, qui fait ça, mais au bord d'une route.
Ouais, bah tu sais, en retour de soirée.
C'est ça. Il y a les voitures qui s'arrêtent tous les 10 mètres parce que t'avais juste un panneau stop qui se baladait.
Ou les blagues de Rémi Gaillard.
Ouais, mais voilà, c'est typiquement ce genre de truc. Et on vous met aussi le lien du coup de Luc Julia, qui est directeur technique, si j'ai pas de bêtises, chez ou directeur de recherche, enfin bref, chez Renault, et qui explique un peu de pourquoi on n'en est pas encore là du tout. Et notamment, il reparle de cette histoire de panneaux stop et de trucs comme ça. C'est-à-dire que les voitures autonomes, ça pourrait fonctionner sur des circuits précis. Mais le fait d'avoir des humains et beaucoup d'incertitudes, comme ce qu'on a sur beaucoup de nos routes, les machines ne sont pas capables de, pour le moment en tout cas, sont pas capables de décider si ce type qui s'est peint un panneau stop sur son t-shirt est vraiment un panneau stop, ou et s'il faut s'arrêter, ou si c'est juste faut pas en tenir compte parce que ça n'a rien à faire là, quoi. Ce que nous on est capable de faire.
Mmh. Typiquement, est-ce que c'est un policier parce qui que... tient un panneau stop, ou est-ce que c'est un type qui fait une blague, quoi.
C'est ça. Sur ce, j'ai aucune transition pour ça, vraiment aucune. Je pense que je pourrais pas faire mieux que Laurent Dauguin en termes de transition, de toute façon. Il y a Scala 3 qui est sorti il y a quelques, il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça.
Ça fait déjà.
Est-ce que quelqu'un a envie d'en parler?
Ça fait déjà
rien,
plusieurs.
Tu t'es mis à Scala récemment.
Ouais. Puis ça fait déjà plusieurs années.
Ça fait un mois, je crois.
Ils travaillent sur le sujet. Enfin, qu'ils ont commencé avec Doty à avancer sur le sujet de ce cas-là, donc ouais, c'était, ils avaient commencé par faire Doty à côté, en tout cas ils ont bossé pas mal sur de nouvelles fonctionnalités, notamment remplacer le compilateur.
Parce que ouais, Doty en fait c'est le nom de code du nouveau compilateur.
C'est ça.
Ce cas-là. Enfin, d'un nouveau compilateur.
Et après ils ont ajouté des fonctionnalités qu'ils ont testées pour ce qui est devenu de Scala 3. Et c'est devenu Scala 3. Ce compilateur a l'air d'être assez efficace et surtout a l'air d'aider aussi sur les erreurs qu'on fait. Il va donner plus de précision. Mmh. Donc déjà, enfin, le développeur, c'est une bonne chose parce que on avait de temps en temps des erreurs Scala et on comprenait pas forcément d'où ça venait. Donc ça permet d'aller un peu plus loin.
Grâce. Merci les implicites.
Oui. Bah, le premier problème du passage sur Scala, c'est quand même la compréhension du phénomène d'implicite. Et il y avait plusieurs sujets sur les implicites, puisque c'était utilisé pour plusieurs choses. Par exemple pour faire des castes d'objets, ou pour réutiliser des fonctions avec des paramètres et des conditions. Et de ce que j'ai cru comprendre, dans Scala 3, il va y avoir des nouveaux mots-clés qui vont permettre de différencier les différents usages de l'implicite.
Ouais. En fait, il y a plusieurs... on va dire qu'il y a plusieurs choses dans le langage, parfois qu'on aime bien faire, faire de l'injection de dépendance, faire des type classes. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les type classes, je peux peut-être faire un petit rappel. Mais l'idée, c'est tu définis ce qu'on appelle un trait ou une type class qui va fournir des, comment dire, des fonctions, une interface, quoi, un peu comme une interface en Java. Et ensuite, tu peux implémenter cette type class pour un type donné, même si le type ne t'appartient pas et que la type class ne t'appartient pas. C'est-à-dire que là où en Java, quand on fait une interface, si on veut faire une classe qui implémente cette interface, on est obligé de créer la classe. Et dès la création de la classe, au moment où on la compile, il faut qu'elle implémente l'interface. Avec tout ce qui est type class, tu peux prendre un type qui vient d'une lib, tu peux prendre une interface qui vient d'une autre lib, et définir toi-même dans ton projet l'implémentation de ce trait, de cette interface pour ce type-là. C'est très très puissant parce que ça permet dans ton code ensuite d'appeler une autre lib, par exemple, qui a besoin de cette interface-là, mais avec tes types à toi, etc. Donc c'est assez puissant. Et il y a plein de choses comme ça qui avant étaient utilisées implicites. Juste, il y avait un mot-clé implicite qui était utilisé pour tout. Et en gros, ça permettait avec implicite de mettre dans une grosse map globale des instances de certains types. Et quand il y a des fonctions qui avaient besoin d'un implicite de ce type-là, bah, prenez dans la map globale l'instance qui existait. Et sauf que quand tu crées un implicite qui avait besoin d'autres implicites, etc., le compilateur était incapable de te dire exactement lequel te manquait et tu te retrouves dans de la soupe d'implicites. Enfin, c'était l'enfer. Et en Scala 3, ils ont viré ce mot-clé, tout simplement, et ils ont pris tous les usages qui étaient utilisés, tout ce qui était type class, tout ce qui était injection de dépendance, tous ces trucs-là, et ils ont mis des mots-clés spécifiques pour chacun de ces usages. Et en fait, finalement, ils ont rendu les implicites explicites, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a toujours des trucs implicites. Donc ça permet d'éviter parfois d'appeler une fonction avec 15 paramètres de plus, alors que c'est des paramètres qui sont des objets qui traînent dans ton contexte parce que voilà. Et mais la façon d'importer ces implicites qui s'appellent plus des implicites, qui s'appellent des given par exemple, ça fonctionne beaucoup mieux. Ils ont tout basé sur les type class. Alors ça, perso, je trouve que ça ressemble de plus en plus à du Rust en termes d'usage, Scala 3, ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Et voilà. Et puis ils ont aussi viré toutes les macros. Ça, c'est pas un truc qu'on fait en général au quotidien, mais il y a pas mal de libs qui apportaient des choses très intéressantes.
Beaucoup
et qui utilisaient très. Comment?
Coucou Circe, Jason.
Coucou Circe, qui utilisait des macros. Et sauf que les macros jusqu'à Scala 2, c'était pas très très propre. Ça a l'air. Enfin, c'est un problème assez récurrent, hein, les macros. Il me semble qu'en Rust aussi, ils ont changé pas mal les macros. Enfin, ils ont mis du temps avant de mettre des choses au point. Si je dis pas de bêtises, Geoffroy, que les macros, ça a mis un peu de temps à... et même encore, c'est pas toujours.
C'est encore un sujet. C'est un sujet politique, les macros, parce que c'est un truc où c'est là pour pallier à des manques qu'il y a dans le compilateur. Donc, ça devrait pas être trop utilisé. Au fur et à mesure, le compilateur devrait fournir de plus en plus de choses sans qu'on ait besoin de macros. Sauf qu'au fur et à mesure, les gens font de plus en plus de choses avec les macros et s'amusent bien, en fait.
C'est ça.
Parce que c'est, tu peux construire par-dessus ton langage, te faire tes DSL, etc. Donc, même si, d'un point de vue purement théorique, du langage, etc., t'as pas forcément envie que les gens fassent ça, c'est juste tellement pratique. Tu peux pas le virer, en fait.
Ben, et en Scala 3, en fait, ils ont décidé de refaire complètement ces macros. Donc, c'est tout le système de macros. Donc, il y a pas mal de choses qui disparaissent et il y a des choses qui restent, mais un peu différemment. Mmh. Et voilà, donc beaucoup, beaucoup de changements. Ils ont eu l'intelligence d'amener Scala 2, donc avec les versions 2.13, jusqu'à une interopérabilité avec Scala 3, c'est-à-dire que tu peux prendre un projet Scala 3 et utiliser des bibliothèques en Scala 2.13, et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, le truc, c'est que les libs les plus intéressantes utilisaient les macros de façon abusive. Ce qui posait aussi parfois des problèmes, hein, parce que quand tu fais du CRC, pour les gens à qui ça parle, c'était l'enfer en termes de comprendre pourquoi le compilateur te sort cette erreur. Et,
je confirme.
Et parfois devoir aller lire le code de CRC pour essayer de comprendre. Enfin bref. Et il y a pas mal de choses. Nous, on utilise par exemple des libs comme Refined ou Squant, qui permettent de faire des, voilà, de raffiner des types, etc. Et en fait, je pense que la moitié du code de la lib Refine, qui est très très intéressante, hein, va pouvoir être jarté, parce que en Scala 3, il y a moyen de faire ça proprement en virant les tonnes de macros bizarres qu'ils ont dû utiliser pour faire leur lib. Donc voilà, faut attendre un petit peu que ces bibliothèques-là migrent pour avoir toutes les libs intéressantes.
Oui, de ce que j'ai lu, il y avait aussi des améliorations sur les types en Scala 3, notamment numérique, etc. Donc ça va permettre d'aller plus vite dans Refine. Refactoring.
Oui, en plus, oui. Oui, tu peux définir un type, le type 2.
Oui.
Je peux dire que ma variable A est de type 2. Et en fait, bah, c'est un type entier qui vaut 2. C'est-à-dire que si tu fais A égale 3, bah, ça va te taper une erreur de compilation.
Donc, ouais, il y aura plus de choses qui seront possibles et envisageables. Après, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que effectivement, les libs peuvent parler entre Scala 2.13 et Scala 3. Mais on ne peut pas avoir la même librairie en Scala 2.13 et en Scala 3 dans un projet. Voilà, c'est la seule petite incompatibilité qu'il y a. En tout cas, c'est top de voir déjà une intercompatibilité entre 2.13 et 2 SKA 3 et de pouvoir faire la migration, parce que c'est vrai que sinon ça donne Python 2.7 et Python 3. Voilà. Okay.
Je sais pas si tu fais un peu SKA toi, Brendan?
Pas du tout.
C'est pas du tout ton...
Non, pas du tout. Oui.
Bah, si tu veux t'y mettre, Scala 3 est vraiment très très bien.
Ce serait le bon moment. Ouais.
J'y jetterai peut-être un petit coup d'œil. Hein.
Ouais, non, en lisant le book Scala 3, il y a quand même pas mal de. Il y a quand même énormément de choses où je me suis dit, ah, enfin quoi. Enfin, quasiment toutes les deux lignes, j'étais, ah, trop bien. Ah, enfin. tous les pain points qui étaient notamment liés aux implicites, hein, parce qu'il y en avait quand même partout.
Et aux macros.
Et aux macros ont été quand même vraiment nettoyés. Et à chaque fois que je lisais dans les nouveautés, j'étais « Ah, trop bien
!» Voilà, en tant que développeur, voilà. Quand on débute avec Scala, les implicites et les macros, c'est quelque chose En plus de changer de paradigme et de passer sur du fonctionnel, font que ouais, ça va être top déjà de pouvoir se concentrer sur le fonctionnel et éliminer un peu le côté implicite et les macros qui, bah, mine de rien, on passe du temps à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une petite erreur et au final, c'était pas les bons implicites au bon endroit. Hein. Et au final, on finit par déclarer des implicites explicites dans son propre code social.
J'en ai fait beaucoup, ouais. Où tu réexplicites un peu tout ça parce que finalement, le compilateur n'arrive plus à s'en sortir.
Exactement.
Ouh là 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 là, on est à 55 minutes.
Large.
Moi, je pense que c'est cramé pour les 1 heure là. Je pense que
c'est cramé. Bon, allez, on se dit 1h15.
Non plus. Bon.
Mais il y a quelques nouveautés là. Grafana 8.0 est sorti. Ça, c'est un lien d'Aurélien.
Tout à fait. Alors là, le mois de juin arrive, donc Grafana a organisé ce qu'on appelle sa Grafana On. Donc c'était la petite présentation et tous les ans, une nouvelle version de Grafana arrive et donc c'est la 8.0. Alors c'est pas des changements révolutionnaires, mais c'est même une nouvelle version majeure. Il y a eu plusieurs points assez intéressants qu'on va retrouver dans cette nouvelle version de Grafana. Ils ont continué à travailler sur la vue Time Series, qui était déjà présent dans les dernières versions 7.5. Donc il y a un refactoring de la vue de Graph qu'on avait déjà présente dans les autres versions de Grafana, avec toujours plus de paramètres, ce qui est un petit peu chiant des fois pour s'y retrouver. Mais grand ajout de Grafana 8, il y a une barre de recherche dans les paramètres. Donc on peut charger, par exemple, si je veux changer l'unité, on tape unit, etc. Et donc on va pouvoir jouer comme ça et aller retrouver ces paramètres beaucoup plus facilement. Donc ça c'est cool, ils ont ajouté notamment... de ce que j'avais vu, on peut lisser différemment les courbes, c'est-à-dire le modèle, etc. Enfin, il y a encore plein de choses à découvrir sur comment est-ce qu'on va pouvoir grapher des graphes. Ils ont revu un peu la façon dont on remplit les valeurs quand il y a des valeurs qui manquent, ce qui est quand même assez top. Et des nouveaux opérateurs, un peu plus optimisés, etc. Donc non, c'est assez top sur cette petite vue-là. Surtout des nouvelles visualisations. Maintenant, on a une visualisation qui permet de voir l'évolution d'état en fonction du temps. Ce qui est top parce que par exemple si on a un système qui est hoc, ça bagote et KO, on va pouvoir avoir une vraie fresque avec un hoc vert, avec juste voir les changements d'état. Donc ça c'est top.
C'est hyper pratique ça. Genre, juste hier, on était en train de faire un truc comme ça pour voir, tiens, tel serveur est up ou pas, et avec les notifs de l'échec. Donc ça, c'est génial. Ouais.
Grafana 8, effectivement, c'est arrivé, donc on a une vue. Donc ça prend et des chaînes de caractères dans les données, dans les time series, mais aussi ça peut gérer par exemple la construction d'état à partir de données numériques. C'est-à-dire qu'on peut dire que par exemple tant que les données sont inférieures à, je sais pas, un CPU, enfin de la RAM inférieure à 80%, on dit que c'est hoc, si ça passe au-dessus de 80, ça bagote, et si c'est au-dessus de 90, c'est KO. Enfin, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, on peut construire ces états. Donc ça, c'est une nouvelle vue qui arrive. Ils ont
Et
refort.
on pourrait refaire IsFree Not Dead Yet avec Grafana en
Ah, tout à fait.
fait.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, Grafana est très utilisé pour faire ce genre de dashboard et de les rendre accessibles. Il y en a un paquet sur Internet qui sont disponibles.
Non, il y a même, je vois même que sur certains événements caritatifs, par exemple, tu as des panels Grafana publics où tu peux voir l'évolution des dons, des trucs comme ça, via un Grafana, du coup, pendant l'événement.
Ça permet de vachement personnaliser son dashboard de Grafana.
C'est quand même un des meilleurs, enfin, pour moi, c'est quand même un des meilleurs, si ce n'est le meilleur outil de graphe en open source du marché, quoi.
Aujourd'hui, je pense que oui, et c'est pareil avec Grafana, avec les nouvelles versions de Grafana, plus on avance et plus je vois les features qui manquaient, faire ah oui, c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Et surtout, c'est ah oui, en plus, ils ont travaillé et ils sont allés plus loin que juste faire la feature, etc.
Surtout que c'est pas que du afficher des dashboards, c'est que t'as de plus en plus un côté exploration de données, justement. Parce
Tout à fait.
que là, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup avec des dashboards qui sont assez fixes, mais dans l'idée, tu peux aller très loin et genre tu commences à comment dire à rassembler les données d'un droite à gauche, regarder différentes tailles, différentes échelles, machin, différentes unités. Tu peux finalement aller assez loin et ça va être juste ce que tu as à côté navigateur, ce que tu es en train de tester là et qui n'est pas des requêtes prédéfinies dans le backend, quoi.
Tout à fait. Notamment, ils ont continué à travailler sur la vue d'Explorer, qui permet d'explorer ces données, sur la vue des logs. Et là, ce qu'ils ont travaillé énormément, et enfin, il était temps, C'est sur sur la refonte de la partie alerting pour notamment merger un peu la vue d'alerting avec aussi ce qui existait avec le Prometheus, avec l'alert manager de Prometheus. Et là, il y a eu un gros travail. Je crois que la présentation est mercredi soir, donc aujourd'hui, pour nous qui enregistrons. Et donc il y a une présentation ce soir dans la GraphinaCon de l'alerting. Donc je pense que ce sera disponible dans quelques jours. Ensuite, ce qu'ils ont ajouté, moi, qui est une feature que je trouve super top dans Grafana, c'est qu'on peut définir un graphe comme une librairie. Et donc, si on a le même panel dans plusieurs dashboards, on va pouvoir maintenant le changer qu'à un seul endroit et avoir une librairie qui sera commune à tous ces dashboards dans son organisation, Grafana. Et ça, c'est bien.
Ouais, c'est cool. Ça, c'est cool.
Parce que sinon, c'était chiant, c'était de mettre à jour le même graphe un peu partout de quand on avait, par exemple, des overviews, des graphes plus précis, etc. Bah là, au moins, ça va avancer. Petite feature qui est sympa, c'est que maintenant, dans Grafana 8, on peut envoyer des données en streaming. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'avoir une base de données quelque part. On peut les envoyer directement sur le Grafana et c'est un point d'entrée streaming qui est activable. Donc, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, ça peut être utile pour juste débugger, garder quelque chose.
Ou un dashboard dans un bureau à un moment ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais en fait, un petit script dans un coin qui doit envoyer un event. Non, c'est génial ça comme idée.
Bah oui, si par exemple, on veut juste débugger quelque chose de précis qu'on n'avait jamais enregistré la donnée, bah, on peut le mettre et regarder ce qui se passe, etc. Donc, assez cool au niveau en termes des nouvelles features qui arrivent.
Cool. Et je vois qu'ils lancent des nouveaux projets aussi, genre la base de données qui va derrière le Grafana, tant qu'à faire.
Exactement, donc ça c'est la deuxième partie sur Grafana. Grafana continue à construire son écosystème autour de, pas plus que la visualisation, mais tout le côté outil sur du monitoring. Donc on va retrouver notamment le dashboard avec Grafana, mais aussi le projet qui s'appelle Cortex, qui est une time series. Donc Grafana travaille beaucoup avec l'écosystème Prometheus qui est déjà existant. Donc Prometheus, c'est une base de série temporelle qui permet de stocker des données et de faire de la query et de faire de l'auto-discovery sur ces métriques. Le petit défaut de Prometheus, c'est que c'est un seul binaire. Donc en fait, on lance un binaire et puis on a une seule instance à un seul endroit. Donc, on peut avoir de la HA sur du Prometheus, etc. Mais on reste limité par les capacités d'un seul et même binaire. Et ils ont donc construit Cortex, qui est en gros comment est-ce qu'on fait scaler du Prometheus. Donc c'est une solution qu'ils ont développée, qui est développée par Grafana, qui est open source, et qu'eux, bien sûr, ils utilisent pour faire leur offre Grafana Enterprise. Notamment Cortex, on la retrouve aussi sur Amazon, je pense, sur AWS, on a des offres Cortex pour faire du stockage time series à grosse échelle. Et donc là, nous avons eu un petit retour d'expérience sur Cortex pendant la GraphanaCon par l'entreprise Robinhood, qui sont justement passés d'abord d'OpenTSDB à du Prometheus et qui ont rencontré des limites de scaling avec Prometheus dû au fait qu'ils avaient qu'un seul binaire et qu'au bout d'un moment, ils avaient trop de données que ce que pouvait supporter un seul Prometheus. Ils ont choisi de se baser sur Cortex car c'est standard avec les mêmes fonctionnalités de Prometheus, que ce soit sur de l'ingestion et aussi sur de la query, donc c'est du PromQL, mais c'est plusieurs microservices et ça offre donc plus de scaling horizontal, etc. Et le coût de performance en query était totalement acceptable. Ils ont utilisé un petit agent qui s'est fait par Grafana pour la collecte et ils ont dû le paramétrer et le tuner pour que ça marche bien pour leur infrastructure. Avec Cortex, ils ont rencontré une seule limite assez forte, c'était le nombre de blocs créés, parce qu'ils utilisent un seul tenant. Et donc, du coup, dans Cortex, les blocs de données que l'on crée, la compaction est faite en fonction des tenants. Et donc, est optimisée si on a plein de tenants. Et là, comme ils avaient un seul tenant, ça ne compactait pas assez bien et assez vite et assez efficacement. Donc c'est leur principal issue qu'ils sont en train d'adresser et ils sont en train d'essayer de migrer un Cortex avec un seul tenant vers du multi-tenant. Notamment avec en faisant des tenants overtime, par exemple, etc. Donc pour vraiment séparer les données, etc. Donc ça c'est en cours chez eux, mais en tout cas aujourd'hui ce qui est intéressant au niveau des chiffres qu'ils donnaient, c'est qu'ils avaient presque 1 milliard de séries actives, il me semble, avec 10 millions de samples par seconde et sur une rétention de données de à peu près 60 jours. Et ils envoyaient, chaque sample envoyait des données toutes les 15 secondes. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes d'échelle sur laquelle ils ont réussi à monter au niveau de leur base de données time series. Et c'est basé sur du coup le projet open source Cortex. Mais Grafana n'a pas fait que Cortex, qui est juste la partie dédiée time series. Ils ont aussi travaillé sur Loki, qui est un store de logs, qui est déjà open source depuis un petit moment et sur lequel ils ont fait pas mal de présentations lors des différentes GrafanaCon précédentes. Et là, cette année, c'était l'occasion de faire la release de l'outil qui s'appelle Tempo en version 1.0. Donc, de dire que Tempo est prêt pour de la production. Alors, Tempo, qu'est-ce que c'est? C'est une solution distribuée open source pour faire du tracing, donc qui a été fait par l'entreprise Grafana. Alors, qu'est-ce que c'est que le tracing? C'est ce qui permet de mieux
Ce
voir
que j'avais demandé.
et de comprendre les requêtes qui sont faites dans un système ou une application pour notamment détecter des problèmes que l'on aurait, des échecs de requêtes ou tout simplement des requêtes qui sont trop lentes, qui mettent trop de temps à s'exécuter. Ce qu'on va
Surtout que ça permet d'agréger en fait généralement autour d'un ID commun une série de requêtes. Par exemple, tu viens de faire une requête à un front-end d'API. Puis derrière, ça fait des requêtes partout dans tous les sens à 50 microservices ou même en interne dans un service ou dans une DB. En fait, le tracing, cet ID va se balader partout et tu vas pouvoir rassembler toutes ces requêtes-là et te faire des graphes de machin à appeler truc, là il y a eu de la latence pour ça, etc. Là, tel appel a foiré et tout ça dans le contexte de cette requête-là.
Exactement.
C'est quelque chose d'hyper intéressant parce que tu peux vraiment regarder, tu as une requête qui a pété, bah tu sais tout de suite quels sont les systèmes qu'elle a affectés, quoi.
Effectivement, d'après, il y a un standard, hein, OpenTelemetry qui existe, où on retrouve différents outils comme Jaeger ou du coup Tempo. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stocker des données de type trace, qui vont stocker par exemple sur du S3 ou ailleurs, avec un label qui va être un trace ID. Et c'est dans lequel qu'on va retrouver effectivement toutes les infos de la requête qui est faite et donc par tous les systèmes par lesquels elle est passée. Donc à chaque fois, on va enregistrer en fait ce trace ID. Par exemple, si on a plusieurs microservices dans son premier microservice, dans son deuxième, etc. Ce qui permet vraiment de comprendre le chemin qui a été fait par la requête utilisateur. Ensuite, une fois qu'on a des trace ID, on a chaque système, on va l'appeler ça un span en fait. C'est chaque étape qu'on fait dans un système de tracing. Donc Tempo version 1.0, donc ça veut dire prod ready. En gros, ils l'ont rendu plus stable par rapport à la dernière GrafanaCon. Ils ont fixé énormément de choses et ils arrivent à atteindre des nouvelles valeurs en termes de nombre de spans qu'ils géraient, donc plus de 2 millions de spans et presque 132 téra de données.
Ça va,
Ouais, c'est
c'est correct.
assez efficace. Et ils ajoutent quelques petites fonctionnalités, donc ils sont restés assez mesurés dans les nouvelles fonctionnalités. Une sorte de trace discovery basée toujours sur ce label Trace ID, donc qui va permettre de générer des métriques depuis les traces. Et notamment, ça va permettre aussi sur leur système de Loki, qui est le stockage de logs de Grafana, d'accéder directement aux logs et de collecter des infos, et donc de pouvoir les afficher facilement, notamment dans Grafana. Ils ont rajouté une petite feature de sampling basée sur du tail, ce qui permet de collecter en fait toutes les données des traces. Et une fois qu'on a collecté toutes les données des traces, on va pouvoir les réduire en appliquant certaines politiques définies par l'utilisateur. Et donc, ça va nous permettre de sortir quelques informations intéressantes des données de tracing. Et enfin, ils ont rajouté la possibilité d'extraire des métriques depuis les spans, donc pas depuis les traces, mais aussi depuis les spans, et donc de les collecter et de les exporter, donc par exemple des durées dans chacun des spans le temps qu'on va passer, et de les exporter au format Prometheus, et donc dans une base de données comme Prometheus ou Cortex ou n'importe quelle autre base de données compatible avec Prometheus. Ce qui est C'est voilà à peu près le tour que je veux faire. Ce qui est intéressant avec Grafana, c'est qu'ils sont en train de vraiment monter toute une gamme de produits, Cortex pour la base de données stockage, Loki pour le stockage de logs, le tracing avec Tempo, un agent avec le Grafana Agent, bien sûr lui Grafana, et ils sont très très investis au sein de la communauté Prometheus. Donc ça fait vraiment un bel offre et de beaux outils sur le segment monitoring. Après, à voir comment Influx réagit, puisqu'il y a aussi leurs Influx Dev qui arriveront en octobre, 26 et 27 octobre.
C'est un truc que vous utilisez chez Matrix? Ou parce que, enfin, comme vous n'avez pas forcément de serveur central.
on utilise pas mal Grafana quand même. Donc dans Matrix, en termes de l'écosystème, tu as un serveur qui est le serveur matrix.org, qui est celui sur lequel la plupart des utilisateurs arrivent quand tu utilises par exemple Element, qui est un petit peu qui est le client le plus populaire pour Matrix aujourd'hui, qui du coup te redirige automatiquement sur matrix.org. Ton compte de suite est créé sur matrix.org. C'est un des plus gros serveurs, même si je crois que c'est pas le plus gros serveur Matrix dans l'écosystème. Et du coup, on utilise forcément du Grafana pour graffer ces Matrix. Et à côté, donc, il y a Element, parce que du coup, tu as la fondation matrix.org, qui est la fondation à but non lucratif qui existe pour protéger Matrix en tant que standard ouvert. Et Element, qui est la boîte commerciale, l'entité commerciale créée à côté par les fondateurs de Matrix pour créer des use cases commerciaux par-dessus Matrix, et aussi pour embaucher une majeure partie de la core team. Un des services qu'on a, c'est un service qu'on appelle EMS, donc Element Matrix Services, qui en gros, c'est de l'hébergement. En gros, tu nous payes et on héberge ton serveur et on héberge et on maintient ton serveur Matrix. Donc on a aussi du Grafana pour monitorer tout ça. Et évidemment, on a quelques autres trucs qui tournent en interne qui ont aussi besoin de monitoring. Donc ouais, on a pas mal d'utilisation de Grafana, notamment principalement avec du Prometheus.
Ouais, classique.
Voilà.
Classique, efficace.
Simple à installer. Surtout, c'est ça que je pense qu'il faut retenir. C'est Prometheus, c'est un binaire, ça démarre facilement. Grafana, oui, c'est facile de démarrer, d'installer. Et bah du coup, forcément.
Ouais, mais je trouve, je connaissais pas du coup Tempo. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on utilise. Alors, on n'utilise pas forcément ça trop en production, mais de temps en temps, pour débugger certains soucis, etc. On utilise des solutions comme Jaeger pour faire du tracing. Donc ça peut être intéressant de bouger vers quelque chose qui est plus intégré dans une solution qu'on utilise déjà en production.
J'avoue. Passons à la suite. Rien à ajouter sur Grafana. Non. Java 17, bon, j'ai aucune transition là. Désolé. Java 17, ça c'était encore un lien d'Aurélien, je crois, qui avait regardé un peu ce qu'il y avait
oui, tout à fait.
Dans cette LTS.
Tout à fait, bah, c'est la fin des nouvelles features pour Java 17 depuis le 10 juin. Donc maintenant, ils sont entrés dans une phase de stabilisation et de bug fix pour une release début septembre. Java 17, ce sera une nouvelle LTS Java. Donc c'est intéressant de savoir un peu ce qui va changer. Moi, ce qui m'a surtout marqué mon attention, c'est l'amélioration de la partie de génération des nombres aléatoires en Java. Donc ça, c'est assez chouette. Il y a une nouvelle classe d'algorithme qui permet de, notamment basée sur LXM. Donc ça, ça va rajouter des possibilités. Ils ont rajouté, oui, quelques langages, donc LXM et d'autres qui sont déjà utilisés dans d'autres langages existants. Et surtout, ça va nous permettre aussi dans Java 17 de mieux gérer l'utilisation de plusieurs algorithmes qui permettent de rendre des nombres aléatoires dans une même application. Ce que je trouve quand même intéressant, toujours, parce que c'est toujours complexe d'avoir de l'aléatoire dans une application. Donc.
C'est clair.
Donc voilà.
On peut le faire à la Debian, sinon on retourne. Hein, on se pose plus de questions.
Ils vont porter le JDK sur les nouvelles archis Mac OS. Donc évidemment, ça va être c'est intéressant pour ces ordinateurs-là.
Pour les M1.
Oui, tout à fait, pour les ordinateurs de Mac.
C'est ça.
Ils ont décidé de supprimer les compilateurs AOT et GUT. Donc c'est les compilateurs Graal car ils sont peu utilisés et s'avèrent coûteux à maintenir. En tout cas, c'est la décision qui a été faite par le JDK 17. Et ils vont ajouter deux nouveaux.
Ils vont remplacer ça, parce que tu dis que c'est utilisé pour GraalVM, tu veux dire ?
C'est le computer Graal, après je sais pas si...
Ouais.
Je sais pas ce qui est prévu après.
D'accord.
En tout cas, j'ai pas vu d'informations qui ont circulé d'autres que fait qu'ils allaient supprimer ça.
Ok. Dans un prochain épisode, on regardera les effets de ça.
Tout à fait. Ce sera l'occasion de reparler. Et ils ajoutent deux nouvelles API expérimentales. API Foreign Earnings et Foreign Memory Access. Ainsi qu'une API Vector aussi, en plus, qui va permettre d'améliorer notamment les calculs vectoriels en compilant, lui, au runtime pour utiliser les optimisations CPU de l'architecture sur laquelle on lance la JVM. Voilà à peu près pour les...
Oui, je viens de voir Foreign Memory Access permet à des soft Java d'accéder à la mémoire en dehors du tas de la JVM. Donc d'aller gérer la mémoire en dehors de ce qui est géré par la JVM. C'est la Elasticsearch qui va être content. Hein.
tout ce qui est JNI, tout ça, ça a toujours été des pain points de toute façon en Java. Donc s'ils essaient de nouvelles choses, c'est intéressant. Quoi.
Tout à fait. Et Foreign Linker, c'est pour fournir un meilleur accès au code natif. Enfin,
oui, c'est ça, au JNI et tout, justement, au fait de pouvoir se linker avec d'autres trucs.
C'est ça.
Oh, ça va être pas mal, ça va être marrant, ça.
C'est vrai que c'était devenu un peu moins facile de faire ça avec les nouvelles versions de Java, et là, c'est vrai que c'est un petit... fournir une façon plus propre de le faire, quoi.
Ouais.
Donc voilà.
Ça marche. Autre chose à ajouter sur Java 17 ? À votre avis, dans combien d'années les gens vont... En vrai, vu que c'est une LTS, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont faire l'effort de migrer dessus. Parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont bloqués en Java 11.
Et 8 même.
Oui, c'est surtout 8.
Et 8, oui, 8.
Et 11. Ce que je vois avec Java 17, c'est quand même offrir une sorte de compromis avec les API Foreign Linker et Foreign Memory Access pour que des applications soient migrées de Java 8 à Java 17. Peut-être même de terminer certains projets aussi qui sont restés en Java 8.
Ouais, c'est vrai. C'est clair. Très bien. On avait des petits sujets CPU apportés par Geoffroy.
Yep. Le premier... Ça nous parlait de Google qui utilise du machine learning pour faire le floor plan de certains de ses processeurs. Donc, quand on définit un processeur, on dit voilà, je veux un composant qui fait tel type de calcul, etc., etc. Je veux qu'ils soient connectés entre eux. OK. Mais après, il faut vraiment trouver comment tu mets ça sur ta puce physiquement. Quel composant est près de quel autre.
Il faut faire du Tetris.
C'est ça, c'est faire du Tetris, avec le problème que si tu as des composants qui doivent se causer mais qui sont loin l'un de l'autre, eh ben ça va faire de la latence, ça va faire aussi du courant qui passe dans un circuit, donc de la résistance, donc ça chauffe. Donc en fait, tu veux que tout soit prêt les uns des autres et que ce soit bien optimisé là-dessus. Et jusque-là, c'était un travail d'être humain et ça prend beaucoup de temps, c'est pas facile comme job. Et ils se sont rendus compte que... ils ont testé des algos de machine learning pour faire ce genre de design, quitte après à le revérifier par un humain, enfin, ils sont toujours, parce que tu lâches pas ton truc dans la fabrication sans l'avoir vérifié. Mais apparemment, ils arrivent à avoir de bons résultats, y compris des designs qui ressemblent vraiment à rien, mais qui en fait se retrouvent être assez efficaces. Donc, je trouve ça pas mal.
C'est ça. Quand tu commences à laisser les machines faire des trucs, tu te retrouves avec des choses, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais voilà. Ça marche.
C'est un peu le souci, genre, tu ne sais pas pourquoi. Et le lien d'après, du coup, qui est aussi sur les processeurs, celui-là, c'est un auditeur qui m'a envoyé ça suite à la semaine dernière, Enigma de son petit pseudonyme, parce qu'on parlait des processeurs de TSMC qui disaient qu'ils avaient fait des processeurs avec une longueur de porte de 1 nanomètre. Et en fait, le problème, c'est que prendre la taille de porte de transistor et s'en servir pour évaluer finalement la performance qu'on a, les capacités qu'on a, c'est plus une bonne idée parce que déjà rien que d'un fabricant à un autre, c'est pas forcément correspondant. Ce qu'il disait par exemple, c'est que en 10 nanomètres chez Intel, c'est équivalent à du 7 nanomètres chez TSMC.
D'accord.
Donc voilà. Et notamment, ça peut être chez Intel où la taille de porte par rapport à une autre métrique sur les transistors a pu bouger. Donc en fait, les performances qu'on pouvait avoir, ça pouvait faire du x2 dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Et c'est pas une bonne idée de se concentrer juste sur la taille de porte. Et finalement, il y a un appel à avoir des métriques qui sont plus sur la densité de transistors, c'est-à-dire au-delà de juste la taille du transistor lui-même, de comment est-ce qu'on arrive à les arranger entre eux, comment est-ce qu'ils arrivent à s'assembler pour obtenir des fonctionnalités équivalentes. Donc, c'est intéressant de voir bouger parce que effectivement, il y a eu énormément d'innovations depuis. Enfin, on parlait de la loi de Moore, des transistors qui sont de plus en plus petits. Et en fait, depuis, il y a eu énormément d'innovations sur comment tu organises tes processeurs, comment tu t'arranges pour qu'ils consomment moins, qu'ils chauffent moins, etc. Et on se concentre assez peu là-dessus parce que vu de l'extérieur, c'était très très simple. C'est les processeurs sont plus petits. Ouais, super. Ils sont devenus plus rapides. Ok, bon, on n'a pas besoin de réfléchir plus. Maintenant, effectivement, la taille en nanomètres, c'est principalement un gimmick marketing. Mmh. On peut aller plus loin pour y réfléchir. Donc, voilà, c'est intéressant à garder en tête.
Effectivement. Et pour finir, avant d'écouter la musique de notre invité, en parlant justement déjà un petit peu de son, ça nous fait une pré-transition pour la musique. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un convertisseur de son qui sort d'une cassette sur laquelle il y avait un vieux jeu vidéo d'il y a 30 ans et pouvoir émuler ce jeu-là dans le navigateur, si je dis pas de bêtises.
C'est
encore
ça.
Un lien
en
de
fait,
Geoffroy, si je dis pas de bêtises.
C'est... que ouais, sur les machines de chez... Alors là, ils sont compatibles avec Acorn Electron et BBC Micro. Donc, ils sont des vieilles, vieilles machines. Le BBC Micro, c'est une machine qui a eu énormément d'impact au Royaume-Uni. Voilà. Donc, les cassettes...
On parle d'un temps où, oui, les jeux vidéo étaient mis sur des cassettes audio. Vous savez, les mêmes cassettes audio que celles qu'on voit dans Stranger Things, là. pour mettre dans le baladeur, là. Et en fait, on mettait la cassette audio dans la machine et le jeu était lu directement depuis la bande magnétique.
Voilà. Et même encore maintenant, en fait, le stockage sur bande magnétique reste un moyen assez compact et assez stable pour garder de la donnée sur le long terme. C'est juste que c'est un peu lourd et donc tu peux stocker plein de données dedans, mais après, il faut que tu ailles chercher ta bande, que tu la connectes et puis que tu lises tout d'un coup et voilà. Mais ouais, et donc du coup, là, ce concept-là, c'est que tu prends ta cassette, ta vieille cassette avec ton jeu dessus, tu la branches sur un lecteur de cassette que tu connectes à ton ordinateur par l'input audio, donc par le micro, et en fait, par web audio, ça va lire ça, ça va enregistrer la donnée, et ça va l'interpréter pour exécuter le jeu dans ton navigateur. Vraiment génial. Voilà. Faire revivre des vieux jeux, parce qu'il y avait des histoires d'émulateurs et des choses comme ça, mais là, tu te connectes à ton vieux matériel directement depuis le navigateur. Quoi.
C'est beau. Vous avez quelque chose à dire dessus, les autres ou...
Pas vraiment, mais c'est beau, comme tu dis.
C'est ça.
Ouais. C'est rigolo.
Geoffroy a toujours le lien de la personne qui hack un truc complètement inattendu.
J'aime bien ce genre d'approche.
T'allais dire un truc, Aurélien ?
Non, je disais c'était rigolo.
Ok, parfait. Eh bien, finissons donc par la musique de notre invité. qui n'est pas la musique faite par notre invité, mais présentée par notre invité, bien sûr.
Pas encore.
Brendan, est-ce que tu veux nous parler de ce que tu nous proposes d'écouter?
Ouais, alors c'est donc ce que je vous propose d'écouter, c'est un morceau que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Never Really Get There par un artiste qui s'appelle Cree. C'est un type qui fait des trucs un petit peu deep house, qui est enfin très 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 chill, très très sympa à écouter, qui est un artiste québécois de Montréal et ouais, non, il fait des trucs très 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 chouettes, et ça c'est peut-être le plus gros, enfin un des plus gros morceaux qui est sorti récemment en tout cas.
Écoutons.
Très bien. Et eh ben on va écouter ça. Merci beaucoup. Merci aux gens qui nous écoutent de nous écouter. Merci Brendan pour ta présence.
Merci à vous pour l'invitation.
Voilà. Merci pour toutes les infos sur Matrix, etc. C'est super super intéressant. Merci Aurélien et Geoffroy.
Merci à toi.
Et je pense qu'on peut dire que l'épisode s'arrête ici.
Parce
que les gens ne voient pas, c'est que dans le conducteur, il y a écrit « L'épisode s'arrête ici ». Donc, comme ça, c'est clair.
Parfait.
Voilà. Eh bien, on vous dit probablement à la semaine prochaine. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et au revoir.
Au revoir.